I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, c'est un peu le parrain de l'émission qui est avec nous, puisqu'il fut le tout premier invité de la toute première émission il y a un an et demi. Il est chef du service culture de Stylist Magazine, et vous pouvez le lire entre autres dans Les Inrecuptibles. C'est Théo Ripton. Salut Théo.
Salut Thibaut. Merci de... C'est ma vraie voix.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Effectivement, tu étais le tout premier invité il y a un an et demi quand on a enregistré le premier épisode d'Année Lumière dans mon salon.
C'est ça.
Et vous nous voici
14... Et nous voici maintenant dans la Silicon Valley.
14 épisodes plus tard, enregistrer ça dans les studios de la Tsugi Radio. Aujourd'hui, on s'en va plus de 80 ans en arrière pour se retrouver au cœur de l'une des décennies les plus mouvementées et passionnantes du XXe siècle. Au programme donc, Frank Capra, le dernier rêveur de l'Amérique, Charlie Chaplin dans les rouages de ses temps modernes et une grande question... Qui était donc Sacha Guitry? Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1936. On écoutait ça en 1936, The Way You Look Tonight, chanté par Fred Astaire à Ginger Rogers dans le film Sur les ailes de la danse. La même année, en beaucoup moins agréable, Adolf Hitler met en avant son Troisième Reich lors des JO de Berlin, quand de l'autre côté des Pyrénées, le général Franco devient lui chef de l'État espagnol. 1936 est également l'année de la première du conte musical Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, de la fondation de l'inestimable Cinémathèque française, du tout premier programme de télévision publique de la BBC ou encore de l'invention ô combien essentielle du bouchon dévissable. Mais 1936 est aussi et surtout du cinéma et dans les salles cette année-là, on allait donc surtout voir danser Fred Astaire et Ginger Rogers et assister à des comédies musicales au nom plein de promesses, Strike Me Pink, San Francisco, le grand Ziegfeld. Et quand les Américains découvraient les premières aventures ciné de Flash Gordon, les Français, eux, allaient voir entre autres Rému jouer César chez Marcel Pagnol, Jean Gabin menait la belle équipe pour Julien Duvivier ou s'embarquer dans les bas-fonds pour Jean Renoir. Et cette année-là, alors que les États-Unis sont en plein dans la Grande Dépression, le cinéma apparaît comme la dernière fenêtre pour rêver et un homme va donner le sourire et de l'espoir aux spectateurs comme personne, jusqu'à devenir un synonyme de film optimiste, utopiste peut-être. Cet homme, il a un nom, Frank Capra. C'est parti pour notre premier thème. Cette musique, c'est celle du générique d'ouverture du film L'extravagant Monsieur Deeds, sorti donc en 1936, réalisé par Francesco Rosario Capra, dit Frank Capra. Alors Frank Capra, c'était donc un réalisateur italo-américain qui a réalisé plus de 50 films et documentaires entre 1921 et 1964. Et c'est peut-être le réalisateur américain des années 30, des années Roosevelt, comme on dira. Il est l'un des réalisateurs les plus récompensés d'ailleurs aux Oscars, avec 3 Oscars remportés respectivement en 1935, 1937 et 1939. Seul John Ford a fait mieux, c'est pas rien du tout. Il a réalisé des films comme New York, Miami, comme Monsieur Smith au Sénat et plus tard La vie est belle, que vous devez sans doute connaître. Et donc en 1936, il a fait l'extravagant Monsieur Deeds, dont on va parler. Si vous n'avez pas vu forcément tous les films que j'ai cités, et si vous n'avez pas vu forcément l'extravagant Monsieur Deeds, vous avez sans doute dû entendre l'expression « un film à la Capra », avec ses gros guillemets. Mais du coup, là, on a cité tous ces films-là, on a parlé un peu de Frank Capra, de tout son héritage, de tous ses succès. Théo, du coup, c'est quoi un film à la Capra?
Ben, un film à la Capra, je pense que quand on dit ça, on parle d'une période particulière de la vie de Frank Capra, qui est donc ce qu'on a appelé ses films sociaux, qui sont des films qu'il a réalisés à la fin des années 30, avec Gary Cooper et aussi James Stewart. Et donc un film à la Capra, de ce point de vue-là, c'est un film qui va nous raconter quelque chose d'assez rassurant sur la possibilité de réenchanter l'Amérique en proie au capitalisme, en proie à la dépression, grâce à des personnages qui vont donner corps au peuple, qui vont lui donner corps dans une forme assez idéalisée et qui vont se rendre dans les lieux du pouvoir financier, du pouvoir politique dans Mr. Smith au Sénat, et qui vont y rebattre les cartes presque involontairement par leur grand cœur, leur naïveté, leur honnêteté. Et qui vont symboliquement sauver l'Amérique. Voilà. C'était ouais, ça ce qu'on ouais. appelle un film à la Capra.
Un cinéma qui ouvre les possibles dans des périodes, comme on l'a dit, c'est une période de grande dépression.
Il faut d'abord préciser que Capra, c'est aussi le premier réalisateur star. C'est-à-dire c'est la première ouais. personne qui a été assez célèbre pour avoir son nom sur une affiche sans jouer dans le film et on allait voir un Capra. Ça, c'était vrai avant l'Extravagant Mr. Deeds, c'était vrai pour ses grands succès du début des années 30, de New York, Miami. Je crois pas que c'était vrai dans le muet. Il a commencé par faire carrière dans le muet en tant que gagman dans les films de Max Ennett, ouais, donc il est voilà, scénariste comique, etc. Et puis à partir du parlant, il a associé son nom à des très grands succès populaires et aussi cérémoniels. Hein. New York, Miami a eu les 5 récompenses principales aux Oscars. Mais après New York Miami, après le carton de New York Miami, tout, je crois qu'il a traversé une période de dépression, si je me souviens bien. Il se sentait un peu inutile sur son piédestal et il s'est dit qu'il allait faire, il est sorti de ça en se disant qu'il allait faire des films utiles. Alors. Et donc le premier de ces films, c'est L'Extravagant Mr. Deeds, et c'est un film qui raconte du coup l'histoire d'un héritier inopiné, d'une grande fortune.
Il s'appelle Longfellow Deeds.
Voilà, multimillionnaire et mort dans un accident de voiture. Où est l'héritier ? Et puis on va trouver dans une petite ville qui s'appelle Mandrake Falls, qui est une ville fictive, inventée, une sorte de petit village de hobbits américain. Et ben on va trouver là-bas un homme qui est une espèce de personnage du village, qui aide tout le monde.
Gary Cooper, donc.
Qui est joué par Gary Cooper, qui joue du tuba, on va le faire venir à New York et puis là, d'abord des gens vont essayer de lui prendre son argent, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui vont se ruer sur lui, qui disent écoutez, on va gérer votre fortune, machin. Le conseil d'administration qui dit bon ben voilà, vous êtes à la tête du truc, écoutez, on a un petit trou de 200 000, du coup avec votre fortune personnelle, est-ce que vous pouvez la mettre ? Il va dire ah, non, parce que moi je fonctionne pas comme ça, un sou est un sou, enfin vraiment avec une sorte d'honnête gestion d'homme du peuple et puis voilà, et puis il va devenir un sujet de moquerie.
Un homme simple, un homme qui a une vie, on va dire, modeste, qui se retrouve à la tête d'une fortune de 20 millions de dollars, ce qui pour l'époque est phénoménal, hein, on rappelle, en pleine grande dépression.
Je crois que ça correspond à 300 millions aujourd'hui.
Et du coup, tu l'as dit, c'est un héros qui va être simple, un héros qui va être peut-être un petit peu naïf.
Et alors en même temps, d'une manière particulière, parce que je trouve que Gary Cooper, et c'est là que je trouve qu'il y a une grande différence avec ce que Capra fera ensuite avec James Stewart. D'une certaine manière, ça marche un peu mieux avec James Stewart. Enfin vraiment, c'est quelqu'un de maladroit, c'est quelqu'un qui fait tomber des objets. Alors que Gary Cooper, c'est un idéal masculin. C'est vraiment un truc...
Oui, il est immense.
Il corrige physiquement des gens dans le film. Il y a une scène au restaurant où il met des bourre-pifs à des types qui se sont moqués de lui, parce qu'ils se sont moqués de ses cartes postales, parce qu'il est poète de cartes postales, il écrit des trucs inspirationnels, voilà, des trucs dérisoires, mais bref, et donc il y a des mecs qui se moquent de lui, il les frappe. Ouais. On n'imagine pas James Stewart. Quand James Stewart frappe quelqu'un dans un film, c'est le sujet du film. Il met un point, et il passe l'heure précédente du film à hésiter à le mettre. Enfin, bon, c'est l'homme qui tue à Liberty Valence. Quoi. Gary Cooper, c'est un idéal masculin, il donne corps à ce truc, à cette idée de l'homme du peuple d'une manière qui est presque soviétique.
Il y a quelque chose de l'icône. Comment dire, propagandiste avec ce il y a un visage très particulier, Gary Cooper et cette mèche, il y a ce côté. Mais
bien sûr, Gary Cooper, il a joué dans le rebelle de King Vidor, je prends cet exemple-là, mais enfin des icônes de masculinité et de pouvoir et d'autorité, de certitude de leur conviction, etc. qui est presque monstrueuse. James Stewart est quelqu'un de plus ambigu. Dans les Sopranos, Tony Soprano prend tout le temps l'exemple de de Gary Cooper quand il veut prononcer son éternelle complainte sur perte de l'idéal de masculin, etc. Et il dit tout le temps, moi je regrette the strong silent type, et c'est tout le temps Gary Cooper qui prend en exemple. Donc il incarne ça, donc on fait incarner quand même le peuple par une statue de marbre.
Pour les gens qui n'auraient pas vu le film, on se retrouve avec donc Gary Cooper, Longfellow Deeds, qui était donc un homme de cette petite ville, qui se retrouve dans des grandes maisons avec beaucoup d'argent, et qui, comme on l'a dit avant, a une réaction très simple et naïve, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des grandes salles, il va crier dans son grand palace parce qu'il se rend compte qu'il y a un écho, sa maison a une espèce de grande rambarde en marbre. Il va glisser dessus comme un enfant. Il adore le tuba, alors il va jouer du tuba dans des moments un peu impromptus. Parce que t'as ce héros, du coup, qui est honnête, tu l'as dit, droit, simple et peut-être un peu naïf. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'un héros qui est simple et qui est naïf fait un film simple et naïf?
Si on regarde un peu en détail ce que raconte politiquement le film, il fait quand même corps avec ce qui se passe politiquement à ce moment-là. C'est-à-dire que Roosevelt, c'est un des grands aspects du New Deal, c'est la séparation des banques de finances et des banques de prêts pour lutter contre la financiarisation. C'est précisément ce que fait Longfellow Deeds quand il décide de dilapider sa fortune pour vendre des parcelles de terrain à des sans-abri.
Et puis le film traite de manière assez frontale cette réalité de l'Amérique en 36 et dans les années 30. Et là, donc, on est en 36. Rappelons que donc on est en 29, il y a eu le krach boursier de 1929. En 36, il me semble que c'est la deuxième élection, la réélection de Roosevelt. Donc on est dans le deuxième terme de Roosevelt. On est à 4 ans de la Seconde Guerre mondiale, on est en plein vraiment dans cette décennie-là où l'Amérique paye directement les pots cassés, on va dire, de ce krach boursier. Et le film n'évite pas son sujet.
Bah non, il filme des pauvres.
Il le traite directement.
Il filme la réalité américaine. Il y installe une fable, mais c'est une fable qui a un ancrage profondément lucide sur l'état de son pays. Il y a quand même des éléments de pessimisme et des éléments de mélancolie qui sont manifestes dans ce film. Donc, je trouve que les films de Capra sont des films complexes quand même.
Oui, voilà, c'est qu'on pourrait s'arrêter, et c'est bien de le dire aux auditeurs, on pourrait s'arrêter effectivement à ce vernis des films de Capra qui sont que ces films-là font du bien. C'est des films assez optimistes, assez mais quand on creuse, et puis il n'y a pas tellement besoin de creuser très très loin. Du coup, je me souviens d'une scène en particulier où tu as littéralement un sans-abri qui vient chez Longfellow Deeds et qui vient pour tuer Longfellow Deeds, littéralement, qui vient avec un pistolet en disant... toi, tu as des millions d'euros, tu as des millions de dollars, t'es dans ta grande maison, nous on crève de faim, je suis là pour te tuer, pour t'envoyer un message, parce que moi, ma famille, elle est en train de mourir de faim, et j'ai des enfants et une femme à nourrir, et il y a cette détresse-là, et t'as Longfellow Deeds qui se retrouve à un bord de la table, et je trouve qu'au cœur, parce qu'il y a aussi une histoire de romance, mais au cœur de cette histoire un petit peu romantique et de cette comédie, etc., etc., t'as cette scène-là qui est un petit peu tétanisante.
Que l'ouvrier lui reproche, c'est des futilités qui lui ont été révélées dans la presse. Il a donné un donut à un cheval, le point de vue de quelqu'un qui crève la faim est insupportable. Et en fait, Deeds se rend compte petit à petit pendant le film que la bonté est impossible, en fait, et que la bonté totale est impossible, et qu'il restera toujours des problèmes, il restera toujours beaucoup de souffrance, et c'est ça aussi la grande mélancolie du film.
Et Capra, comme il n'est pas né aux États-Unis, on sent qu'il a un zèle à défendre ou à mettre en avant son patriotisme américain. Et les années 30 vont être au cinéma, à un moment donné, où le cinéma va être une sorte de rappel moral aux gens, en disant, regardez, on va prendre un personnage qui va être comme vous, on va le mettre dans des situations exceptionnelles et face aux institutions que vous ne pourrez jamais rencontrer dans votre vie, et regardez ce qui est possible de faire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le film se termine sur un tribunal. Et il y a beaucoup de films à cette époque-là qui se terminent sur un tribunal. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a ce côté, ce tribunal, on va dire, institution, est en fait un tribunal moral sur beaucoup d'aspects. Et c'est un gimmick qui revient beaucoup dans cette décennie des années 30. Hein, ce tribunal moral, ce rappel moral aux citoyens, aux gens.
C'est le moment d'une responsabilité collective à faire front à l'individualisme, qui est quand même le grand méchant du film. Hein. Le grand méchant du film, c'est la patte du gain et le manque de solidarité entre les êtres. Et donc le film fait de ça le grand sujet de l'Amérique à ce moment-là. Il se trouve que c'est quand même confirmé par ce qui se passe à la Maison Blanche. Bah, c'est le social, seul moment de gauche de l'histoire des États-Unis. Il y a eu un moment Rooseveltien, c'était le moment de solidarité. Voilà, Capra, c'est le miroir de ça.
Et voilà, et on le voit effectivement à travers ce film, L'Extravagant Monsieur Deeds. Alors on est 80 ans plus tard, 80 ans après 1936. Et donc on parle de cinéma à la Capra, les mots ont été dits, on a dit optimiste, on a dit peut-être un peu utopiste. Il a été, on va dire, taclé plusieurs fois ah, vous faites du cinéma populiste, vous faites du cinéma, on va dire, facile pour les masses, etc., etc. Vu que c'était un peu plus complexe que ça, est-ce qu'un cinéma à la Capra, un cinéma utopiste comme ça, aujourd'hui, ce serait possible, à ton avis? J'ai envie de continuer cette question en disant, est-ce que Capra, aujourd'hui, a des héritiers?
Bah justement, je pense, j'ai l'impression que pas tellement. Et s'il en avait, en plus, il serait pas perçu comme était perçu Capra, pas perçu comme aujourd'hui on perçoit rétrospectivement Capra, même. En fait, je pense que c'est plus le moment de cet optimisme, en fait, et c'est plus le moment de cette forme de naïveté, ce serait un peu difficile aujourd'hui de nous raconter comment un homme du peuple viendrait rééduquer moralement les élites du pouvoir, parce que pour ce coup, enfin, j'ai l'impression que les films qui nous racontent la fracture des deux Amériques aujourd'hui ne placent pas le bon sens d'un côté ou de l'autre. On est dans un monde postmoderne beaucoup plus complexe, avec une ruralité qui schématiquement est aussi très intolérante. C'est l'Amérique rurale qui vote pour Trump, mais en même temps l'Amérique des élites a aussi un rapport de dédain et de à cette Amérique rurale qui est peut-être aussi le cœur du problème. Du coup, j'ai l'impression que ça tomberait complètement à plat d'essayer aujourd'hui de détricoter tout ça avec les outils d'un film de Capra. Et moi, j'ai l'impression que les films qui me racontent la confrontation des deux Amériques ces derniers temps sont des films d'un cynisme et d'une malveillance totale. Moi, je pense à cette année à The Hunt, qui est finalement pas un film du tout
caprien.
comment résoudre ça aujourd'hui avec des outils de Benny Wee Wee? Enfin, voilà. Capra n'en est pas un, mais je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un essayait ça, il passerait pour un Benny Wee Wee, quoi. Oui. Et donc, je ne lui trouve pas tellement d'héritier, avec peut-être une exception, mais c'est des films qui intègrent une grande complexité. C'est le Spielberg récent, quoi. Parce que Tom Hanks, c'est le Tom Hanks de Spielberg dans Le Pont des Espions
J'allais en parler, Tom Hanks, ouais. le nouveau James, le James Stewart. C'est ça, Tom Hanks, c'est James Stewart, véritablement. Donc.
C'est ça, mais c'est quand même des films, Le Pont des Espions et Pentagon Papers, quand même des films qui seraient un peu excessifs de qualifier d'optimistes, quoi. Notamment Le Pont des Espions. Mais effectivement, l'idée qu'il est encore possible d'avoir un personnage qui est porteur d'une grandeur morale, mais après, c'est pas non plus l'homme du peuple, c'est un homme de pouvoir dans ces films-là. En fait, la notion de peuple a été un peu anéantie par le XXe siècle, je crois aussi.
Ce qui est intéressant à noter, c'est que le film, donc L'Extravagant Monsieur Deeds, a été remaké en 2002 avec Adam Sandler dans le rôle principal, et ça donne un film complètement différent.
Je l'ai pas vu.
C'est une comédie un peu plus,
Sandler, c'est pour insister sur la loufoquerie du personnage.
Voilà. Adam Sandler, c'est un peu plus loufoque que Gary Cooper. Voilà, L'Extravagant Monsieur Deeds et Frank Capra, c'était donc le cœur de notre premier thème. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers notre second thème de l'émission consacrée à l'année 1936. Vous avez sûrement entendu cette musique récemment, puisqu'elle a été réorchestrée, réutilisée dans le film Joker l'année dernière, film Joker avec Joaquin Phoenix par Todd Phillips. Elle s'appelle Smile, cette musique, elle est issue d'un film de 1936 que vous avez sans doute tous dû voir au lycée ou au collège. Ce film, c'est Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. Est-ce que toi aussi, on t'a montré Les Temps Modernes au lycée, Théo?
Moi, je ne l'ai pas vu au lycée ou au collège, mais je crois que je l'ai vu dans le programme que je me suis fait entre l'été de ma terminale et le début de mes études de cinéma. Je me suis dit, bon, il faut l'avoir vu, quoi. Mais effectivement, c'est un film qui généralement on le voit parce qu'il faut l'avoir vu. D'ailleurs un peu dommage, mais
les profs d'histoire en général ça leur sauve peut-être deux heures de cours,
franchement c'est un cours agréable à passer, ça, plutôt qu'un truc sur la guerre froide.
Et il passe donc Les Temps Modernes de Charlie Chaplin, ce film où Charlot se retrouve dans les rouages d'une grande usine, effectivement pris dans ce taylorisme fou. Film qui est donc la dernière apparition d'ailleurs du personnage du petit vagabond créé en 1914 par Chaplin, et qui va donc, comme je l'ai dit, plonger Charlot au cœur des problématiques liées à à l'industrialisation, c'est-à-dire que le travail à la chaîne, les manifestations, bref, tout ce qui va être les dérives du capitalisme en général. C'est des thématiques et des problématiques qui étaient déjà assez présentes dans le cinéma européen des années 20-30. Hein. Le cinéma soviétique, on a déjà parlé dans des films comme La Grève, Octobre, des films d'Eisenstein. Métropolis de Fritz Lang, on l'a déjà évoqué. Mais aux États-Unis, c'était un peu plus rare, hein, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, Théo, le cinéma américain n'est pas un cinéma forcément naturellement de gauche. Donc, ces problématiques ouvrières sont un petit peu moins présentes dans le cinéma. Les temps modernes de Chaplin montrent peut-être le début d'une prise en compte. D'ailleurs, les origines du film Les Temps Modernes sont assez drôles à noter, puisque dans son autobiographie, Charlie Chaplin l'évoque. Il dit: je me suis souvenu d'une interview que j'avais eue avec un jeune journaliste brillant. En entendant que je visitais la ville de Détroit, il m'avait parlé du travail à la chaîne des usines là-bas, l'histoire déchirante des grosses usines attirant de jeunes hommes en bonne santé venus de la campagne qui, après 4 ou 5 ans de travail à la chaîne, étaient devenus des épaves. C'est quand même un film qui s'ouvre sur une image assez saisissante. Le début du film, cette première image, c'est ces moutons qui vont à l'abattoir et qui, par un fondu enchaîné, se mixent à une autre image des ouvriers qui sortent du métro pour aller à l'usine, qui est une image orwellienne, qui est une image sortie tout droit du cinéma soviétique des années 20, et qu'on retrouve effectivement dans un film de Chaplin, qui est censé être une comédie, donc c'est assez différent.
C'est vrai que c'est un film, comme tous les films qui sont monumentaux dans leur notoriété, qui ont une place dans l'imaginaire collectif, j'allais dire, en fait, moi je pensais que tu faisait référence à la scène où Chaplin
travaille la chaîne avec les boulons.
La chaîne avec les boulons, où il aussi se retrouve entraîné dans le truc. Oui. Qui, j'ai l'impression qu'il y a une scène qu'on n'a pas besoin d'avoir vu le film pour l'avoir en tête presque. C'est de la culture pop. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est toujours un peu difficile de retrouver un rapport un peu intime avec un film qui appartient à ce point-là à tout le monde. Il y a vraiment quelque chose de complètement unique dans le contexte du cinéma parlant, de ce qui est en train de devenir Chaplin, plus que tout autre artiste du burlesque. Hein, vraiment, il a réussi à habiter pendant une vingtaine d'années dans un monde qui n'appartient qu'à lui.
On est en 1936, le parlant est arrivé en 1927, donc 9 ans avant. Les temps modernes est encore un film muet, donc c'est déjà une anomalie dans le paysage cinématographique à l'époque. On a donc Chaplin, tu l'as dit, c'est un personnage qui appartient déjà à une époque qui est révolue. Et en plus, du coup, il traite de thématiques qui sont aussi une sorte d'anomalie aux États-Unis, qui vont être ces images qu'on a plutôt tendance à voir dans le cinéma européen ou le cinéma soviétique, qui vont être du coup un film à charge contre un des fleurons de l'industrie américaine, qui est le taylorisme, qui est censé quand même être une gloire, un honneur pour l'Amérique.
Je crois pas qu'on puisse dire que c'est une anomalie de critiquer le capitalisme. John Ford a fait Les Raisins de la Colère, voilà. Mais non, moi je trouve que c'est une anomalie de production. Il y a 10 mois de tournage pour Les Temps Modernes. Il y a 5 ans d'écart entre ça et son film précédent. C'est une période où même les films les plus chers sont faits par des gens qui font 2 films par an. Donc Chaplin est quelqu'un qui travaille comme un Cameron, en fait.
Exactement.
À l'époque, c'est complètement anachronique de travailler comme ça, d'engager ce genre de moyens, de mettre un tel temps à faire ses films, et pour en plus faire des films muets. Donc voilà, on l'a un peu évoqué, c'est vraiment la seule star du muet à avoir survécu au parlant, qui plus est, à avoir survécu au parlant, en continuant d'abord à faire non pas du muet, du sonore, mais du non-parlant. Puis il y a quand même toujours une manière de dire que le son est en trop. Le son, c'est des borborygmes, c'est des aboiements.
Que le seul moment où il utilise le son, c'est pour une chanson.
Avec des paroles qui n'en sont pas en yaourt. Voilà. Et sur l'anomalie, moi je trouve que Chaplin est vraiment un individualiste, en fait. C'est-à-dire que certes, il va nous raconter un peu... son personnage est un sans-abri, donc évidemment, il va nous montrer la misère, etc. Mais chez Chaplin, je n'ai le souvenir d'aucune scène collective. Il regarde la dérive machiniste avec une très grande sévérité, mais comme solution, il ne lui apporte que la fuite et une fuite individualiste. Alors, en fait, non, ce qu'il y a l'amour, mais l'amour, c'est quand même un peu l'individualisme à deux. Je trouve quand même que Chaplin, n'est pas exactement un leader ou quelqu'un qui galvanise la collectivité. Ça n'a jamais trop été son sujet.
Pendant que Les Temps Modernes se déploie sur les écrans américains, et d'ailleurs est un beau succès de l'année 1936, de l'autre côté de l'Atlantique, ce monde ouvrier, ces ouvriers, ce travail à la chaîne et toutes ces questions-là sont traitées différemment, puisqu'en France, au même moment, le Front populaire gagne les élections législatives et Léon Blum devient Premier ministre. Alors le Front populaire, vous avez sans doute déjà entendu le terme, hein, c'est une coalition de partis de gauche. On a donc le Parti communiste.
C'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire maintenant.
Voilà. On avait donc le Parti communiste plus le Parti radical, plus ce qu'on appelait la SFIO, ce qui est la section française de l'Internationale ouvrière. Donc ce Front populaire va mettre en place notamment les congés payés, la semaine de 40 heures, l'augmentation des salaires. Et tout ça dans un contexte des années 30 où il y a une montée du fascisme, du nazisme, de l'extrême droite en Europe et en France. Bref, il y a une réalité sociale et politique qui arrive et qui va naturellement trouver son chemin sur les écrans de cinéma avec des réalisateurs comme Julien Duvivier, comme Marcel Carné, René Clair et Jean Renoir et des acteurs qui incarnent parfaitement la figure de l'ouvrier comme Jean Gabin. Et en 1936, on a le droit à plusieurs films dans cette tonalité-là. On a le droit à La Belle Équipe de Julien Duvivier, on a le droit au Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir. Bref, on a le droit à plein de petits films comme ça, véritablement, qui traitent, qui parlent de cette réalité ouvrière, de ce monde ouvrier, des ouvriers en général. Qu'est-ce que ces films-là racontent du monde ouvrier
Ça dépend, évidemment, ça dépend lesquels, mais moi j'ai l'impression que quand on en regarde un peu plusieurs d'affilée, on a le sentiment qu'il y a quand même un champ de possible et pour le coup de commun et que
penses à La Belle Équipe en particulier.
Voilà, bon, je prends l'exemple de la Belle Équipe qui est un succès en plus. Voilà. Donc, La Belle Équipe, ça raconte d'abord un coup de chance puisque 5 amis ouvriers sans le sou, vivant à Paris, partageant une chambre dans un hôtel au mois, en faisant croire qu'ils sont 3 alors qu'ils sont 5, en se débrouillant, qui sont pas malheureux mais qui essayent de se débrouiller, gagnent à la loterie nationale. Ils gagnent 100 000 francs. Et ils décident, c'est Gabin, qui est un peu leur leader, qui leur dit, attendez, non, les gars. Il dit les gars, évidemment. non, il dit pas. Alors ça, on le caricature toujours un peu comme ça. En fait, il le voit très féminine, Gabin. Attendez, les gars.
C'est un chanteur de musical.
Attendez, les gars. Il est plutôt un truc comme ça, je crois.
Alors, voilà. Qu'est-ce que tu fais?
Il fait pas trop des... Oh, voilà.
C'est mais vraiment une imitation de Jean Gabin.
C'est ça. Et donc, du coup, Gabin leur dit, attendez, non, les gars, on va acheter une guinguette. On va acheter une maison... au bord de l'eau, et alors la scène où il le dit, elle est très belle parce qu'on dirait qu'il est en train de la construire par la pensée, quoi. Il va visualiser le petit potager et puis l'eau qui passe à côté, et puis on ira un petit peu embêter les poissons, enfin bref,
au bord de la Marne,
ouais, c'est ça, et au bord de la Marne, et ils vont faire une guinguette ensemble, ils vont la construire ensemble
en mettant leur argent en commun,
et en étant tous présidents. Oh, il y a vraiment ce truc où ils vont tous être
mais
les
du coup
chefs.
On rappelle, hein, Front Populaire, communisme. Et on fait un film sur des gens qui mettent leur argent en commun, oh là là.
Mais c'est aussi, je trouve, un film, certes, sur la fraternité ouvrière retrouvée, mais aussi déjà un peu sur les acquis du Front Populaire, parce que je trouve que c'est un film qui sent vachement les loisirs. C'est vraiment l'invention de la France des loisirs. Il y a vraiment quelque chose de vacancier, je trouve, dans La Belle Équipe.
Et, ouais, alors, le week-end, on peut partir, on compte le pays, on peut partir au bord de la mer.
C'est ça, même le fait d'ouvrir une guinguette, ça ne s'adresse qu'à des gens qui peuvent dépenser leurs sous dans des loisirs. Et effectivement, il y a des scènes de pique-nique, de liesse populaire. C'est la vie. La vie, c'est travailler et profiter.
C'est assez drôle parce que moi, en faisant des recherches sur effectivement la Belle Équipe et ce cinéma ouvrier qui apparaît dans ces années 30-là, tu vois Gabin, tu vois ce cinéma ouvrier, tu vois tout ce mood-là général de la rue. Il y a une sorte d'idéal qui commence à naître sur ces écrans-là d'un monde ouvrier rêvé, de ces loisirs qui apparaissent, etc. Ce qui est drôle aussi, c'est que donc on a parlé de La Belle Équipe, on a évoqué Le Crime de Monsieur Lange, qui est donc un film de Jean Renoir, qui rapidement parle d'une communauté de gens qui vont former une maison d'édition et qui vont essayer de faire monter un petit journal et puis après qui vont essayer de faire un fanzine. C'est un film qui brasse aussi cette question-là de communauté. Et la même année, il y a un autre film qui sort avec cette même idée sous-jacente et qui est un ovni, puisque c'est un film qui s'appelle La Vie est à nous, et qui est un film également sorti en 1936, et qui est un film collectif, dirigé certes par Jean Renoir, mais réalisé entre autres par 8 autres réalisateurs, notamment Henri Cartier-Bresson, Jacques Becker, Jean-Paul Le Chanois, bref, 8 réalisateurs au total, et qui est un film financé par le Parti communiste français.
Ouais, c'est un film de campagne, hein. C'est quelque chose d'assez actuel de ce point de vue-là, et ça ressemble à un film de... Alors il n'est pas sorti au final, parce que justement il a été un peu censuré, mais il a été montré dans des meetings.
Il n'a pas eu son visa, voilà, exactement.
Il a été montré dans des meetings.
Mais c'est vrai que c'est un objet filmique qui est intéressant, parce que alors, si vous voulez le voir, donc, La Vie est à nous, 1936, il est disponible gratuitement, on va dire, sur Internet. Vous pouvez le voir, vous tapez ça sur Internet, sur Google, vous le trouvez. C'est vrai que c'est un objet qui est drôle, parce que quand on lance le film, on a des images d'archives, on a des images de journaux télévisés, avec notamment des bagarres dans les rues, des manifestations de journaux télévisés de l'extrême droite qui marchent dans les rues de Paris, également des manifestations de l'extrême gauche. Bref, on a l'impression au début d'assister à un journal télévisé, puis après s'enchaînent des scénettes plus, on va dire, mises en scène véritablement. Tout ça fait un espèce d'objet un petit peu frankensteinien avec... composé de plein de petits bouts, parfois un petit peu ridicule, puisqu'on nous montre des images de Lénine et Staline. On nous montre il y a quand même des discours entiers de responsables du Parti communiste qui sont comme ça mis en bloc à la fin du film de manière un petit peu ridicule. Et nous, on le regarde 80 ans après avec un regard, on en parlait avant Théo, mais on peut pas s'empêcher d'avoir un petit
oui, ça rictus, fait un peu sourire.
Mais c'est un film qui appartient, comme tu l'as dit, à son époque.
Surtout, en plus, je trouve qu'il faut pas retenir ça de Jean Renoir, qui est quand même quelqu'un qui a raconté son époque de manière autrement plus dialectique et autrement plus complexe que ça. En 1936, il tourne Partie de campagne, qui ne terminera pas, qui sortira... beaucoup plus tard.
Le crime de Monsieur Lange est un film notamment plus intéressant et qui traite de la même, à peu près de la même question.
Voilà, c'est ça. Et puis surtout, finalement, je trouve que le pessimisme est un peu plus intéressant que dans tout ça, que l'exaltation en plus, propagandiste. Enfin, bon, c'est vraiment un film de campagne électorale.
Là, ça fait quelques minutes qu'on discute effectivement des temps modernes de Chaplin. On a parlé donc de La Belle Équipe, du crime de Monsieur Lange, tout ce cinéma avec ce monde ouvrier qui apparaît enfin à l'écran dans ces années 30 et en 1936. Est-ce qu'on peut dire, à ton avis, Théo, qu'il existe un cinéma ouvrier, ton avis ?
Tu veux dire actuellement ?
Non, dans ces films-là, et puis même dans l'histoire du cinéma, et puis on parlera peut-être plus récemment de ce qui nous concerne aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut dire que au-delà de ces films, etc., est-ce qu'il a jamais existé un cinéma ouvrier, selon toi ?
Le truc, c'est que quand on dit ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de double sens un peu trompeur qui serait qu'il serait fait par des ouvriers. Par contre, après, le cinéma s'intéresse au monde, le monde contient des ouvriers, le cinéma filme des ouvriers. C'est un sujet cher à certaines époques du cinéma, c'est un sujet cher dans les années 30, ça a été un sujet cher dans les années de la fin du 20e, et que ce soit chez Ken Loach ou chez Geddy Gian. Enfin voilà, aujourd'hui, on appelle ça un cinéma social maintenant. On appelle plus ça un cinéma ouvrier. Je pense que derrière l'expression de cinéma ouvrier, il y a déjà un peu le début de la propagande. Il y a l'idée qu'on est quand même un peu en train de nous raconter les grandes fables de la vie ouvrière. Et quand je pense cinéma ouvrier, je vais plutôt penser aux années 30. Aujourd'hui, on dit cinéma social, qui est une expression que j'aime pas beaucoup, même s'il peut m'arriver de l'employer, mais qui de fait correspond à une case.
Pourquoi t'aimes pas l'employer ?
Parce que je trouve que, je sais pas ce que c'est un cinéma qui n'est pas social, en fait. Enfin, je veux dire, je trouve qu'en fait, on en fait une espèce de grand ensemble où on se dit que ça va être un peu un globi-boulga avec de la caméra portée et grosso modo pas trop de couleurs. Enfin, c'est un univers, c'est une atmosphère, c'est une manière d'avoir un rapport un peu touristique à la misère. Et donc, je trouve que derrière l'expression cinéma social, en général, il y a quand même une mauvaise prise en compte de ces films, une manière de tous les trouver beaux sur des critères non cinématographiques mais humains, de plus du tout les regarder pour ce qu'ils sont. Il y a plein de rapports au monde qu'on peut avoir quand on filme dans une banlieue, autant qu'il y en a plein qu'on peut avoir quand on filme dans un appartement du 8e. Et on parle pas de cinéma riche, on parle pas de cinéma sur les riches, parce que ça veut rien dire. Donc le cinéma social, je trouve que c'est un peu un truc pour dire, ah tiens, hier j'ai vu un film social, j'ai vu un film avec des gens qui en galéraient un peu en Belgique, et puis ils étaient malades, enfin voilà, je trouve que, et puis ensuite
nos amis belges évidemment,
et puis en plus non, parce que je parlais des Dardennes, mais puis en plus je sais pas, c'est une manière de ne pas le prendre en compte, quoi.
Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission consacrée à 1936. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, et on est parti pour notre troisième et dernier thème.
C'est même inouï de penser qu'on peut adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point là Oh, être marié, ça doit être quelque chose de terrible, ça, hein? D'ailleurs, c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre, je ne sais pas moi, un Chinois ou un Portugais. Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais, c'est possible. Et si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je dirais, non, mon général. Naturellement, à condition que ce soit un général qui m'ait dit ça.
On pourrait le laisser parler encore et encore, on pourrait le laisser continuer son monologue, tellement il le récite et tellement il en parle si bien. Cet homme, cette voix, c'est celle de Sacha Guitry. Cet extrait sonore vient du film Faisons un rêve, également film de 1936, réalisé donc par Alexandre Georges Pierre Guitry, alias Sacha Guitry, acteur, auteur, réalisateur du film, et sujet donc de notre troisième thème. Alors Sacha Guitry, pourquoi on le met au cœur de ce troisième et dernier thème de l'émission sur 1936? Tout simplement parce qu'en 1936, Guitry sort 4 films, et pas moins, ce qui est déjà assez impressionnant. Il sort donc Faisons un rêve, dont vous avez entendu un extrait sonore, mais également Mon père avait raison, Le Nouveau Testament, et Le roman d'un tricheur, et 1936 en particulier, mais les années 30 en général vont être une décennie assez riche pour Sacha Guitry. Alors Sacha Guitry, avant qu'on en discute dans cette émission, pour moi c'était surtout un homme de théâtre, je vais le dire même
c'est sans lien, hein.
Bêtement, mais c'était avant tout un homme de théâtre, et pour moi c'était surtout un nom de rue, c'était surtout un nom de théâtre justement, ou un nom de cinéma, salle Sacha Guitry,
salle
des fêtes, médiathèque, voilà. Donc il y avait cette espèce d'entité Sacha Guitry que j'arrivais pas trop à identifier précisément.
C'est un nom de citation aussi, c'est un peu l'inventeur de la citation, quoi. Il y a un truc de la une citation de Sacha Guitry, c'est un truc qu'on voit en premier de lui, je pense que notre premier rapport à Sacha Guitry, c'est d'avoir lu une citation en signature du mail d'un oncle, tu vois, enfin
donc c'était voilà, quelque chose, une entité un petit peu lointaine, mais j'avais du mal à l'accrocher et fixer des films et un cinéma sur ce nom-là. Alors pourtant, c'est quelqu'un qui a eu une vie brièvement assez exceptionnelle, hein, puisque c'est le fils de Lucien Guitry, un grand homme de théâtre. C'est quelqu'un qui est né à Saint-Pétersbourg et qui aurait joué, selon certaines sources, devant le tsar.
Vous connaissez le tsar, hein,
c'est ça.
Ah oui, non, mais absolument, ils étaient à la cour.
Cette histoire qu'il aurait joué à 8 ans devant le tsar de Russie.
Je crois que c'est son parrain, le tsar de Russie. Je suis pas certain, mais bon, bref. les auditeurs peuvent le vérifier avec plus de facilité que nous actuellement, qui sommes en mode avion. Mais en tout cas, il a grandi à la cour de Saint-Pétersbourg.
Dorure, et du coup, il
a pété dans la soie, comme on dit.
C'est le fils d'un grand homme de théâtre, et donc il devient naturellement d'abord un acteur et un auteur de théâtre, et c'est comme ça qu'il d'abord gagne une certaine notoriété, puisqu'il est l'auteur de 124 pièces de théâtre dès les années 1900, et il sera plus tard le réalisateur de 36 films à partir des années 30, donc. Et dans ces 36 films, on peut compter notamment 16 adaptations de ses propres pièces. Théo, toi qui as voulu qu'on en fasse le cœur de notre troisième thème, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu Sacha Guitry?
C'est le dernier des Mohicans d'une certaine idée du théâtre classique, populaire, voilà, il y a Feydeau, à Mirbeau, etc. D'un goût de la France et de l'esprit littéraire français qui est sûrement un petit peu Troisième République d'une certaine manière, mais qui avait un très grand goût de l'histoire. C'est quelqu'un qui a été comme ça un peu le chant du cygne d'une certaine idée du théâtre, d'une certaine idée de l'esprit littéraire français, et qui avait une capacité verbale à parler comme un livre et à analyser les comportements humains. Pour reciter à nouveau cette personne, donc j'oublie à nouveau le nom, qui disait qu'il est probablement mort sans jamais avoir prononcé une phrase qui ne fut un mot. Il y a vraiment quelque chose de lui de souverain dans le bon mot.
Il parle comme dans un beau livre.
Et c'est un acteur exceptionnel aussi, qui a d'abord fait beaucoup de théâtre, qui même a un peu dédaigné le cinéma, hein, parce qu'il faisait partie des gens qui trouvaient que c'était peut-être une mode. Et puis dans les années 30, il s'est mis au cinéma, sous l'impulsion de sa troisième femme, Jacqueline de Lubac, qui était aussi son actrice fétiche, du coup, dans ses premiers films-là. Et il s'est mis à faire systématiquement des films et des pièces, un peu comme ça. Souvent un peu les deux à la fois. Enfin, souvent, il adaptait ses films en pièces ou l'inverse.
Il fait 3 à 4 films par an, entre 34 et 44.
Tout est charmant, tout est très drôle. On ressort de chaque film avec une dizaine de phrases qu'on trouve hilarantes.
C'est vrai que l'extrait sonore qu'on a entendu, c'était ce monologue-là où il parle du mariage, des femmes, savoureux, véritablement.
Il est d'une volubilité suprême, et puis ensuite il y a la guerre, et pendant la guerre il continue de travailler, et il se trouve qu'il a été emprisonné à la Libération parce qu'il a été soupçonné de collaboration, ce qui aujourd'hui on sait que c'était totalement faux.
On l'a inculpé d'intelligence avec l'ennemi, et lui il a répondu je crois en effet n'en avoir jamais manqué. Ça, là t'en as parlé, c'était une plume phénoménale. Et c'était, comme tu l'as dit, une carrure, une prestance, une présence unique. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais vu Sacha Guitry dans un film ou dans un extrait, moi je vous invite à taper Sacha Guitry sur YouTube et à regarder Faisons un rêve. On a cet homme qui est assez magnifique, assez imposant. Il a une prestance, il a une présence assez folle, qui parle très très bien, qui a un parler assez élégant et assez savoureux, et pourtant qui parfois peut avoir comme ça des percées de je sais pas, d'insultes ou de grossièreté qui subitement font basculer l'ensemble de son discours dans quelque chose de très proche.
Dans François Rêve, il a des moments de grossièreté. Il peut dire putain. Il y a une opératrice de téléphone qui l'interrompt et il croit qu'il s'est fait couper. Il a fait, elle m'a coupé la salope. Enfin, il a un truc. et c'est très étonnant de sa part.
Quand il attend son amoureuse, il est là, oh là là, ça sera formidable, ce sera un moment sublime, magique. Et puis dans la phrase après, mais qu'est-ce qu'elle fout, bordel de merde. Il y a ces moments de... C'est assez drôle.
Et puis par ailleurs, Guitry fait tout aussi. Donc du coup, c'est tout le temps un peu lui qui nous parle. Il y a quelque chose quand même un peu de
je me mets sur la table.
Et du coup, ces tripes sont un peu à vif, quoi. Parce que c'est lui qui écrit, c'est lui qui joue, c'est lui qui met en scène. Et donc il y a. Et on va voir Guitry, on va pas voir le film, on va pas voir son personnage.
On va voir un film de Guitry. Décrire un film de Guitry, c'est assez particulier. Parce que quand on regarde un film de Sacha Guitry, ce qui marque, ce qui choque un petit peu, c'est que, ben, que ça ressemble pas forcément. Et c'est une question rhétorique, à du cinéma véritablement.
Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr,
c'est un cinéma qui ressemble plus, et je mets le pied dans le plan volontairement,
on a déjà parlé.
À du théâtre filmé véritablement.
Voilà, bon, alors évidemment, c'est quelque chose qui c'est une critique qui a toujours été un peu faite à Sacha Guitry, qui ne s'intéressait pas énormément à faire des mises en scène trop découpées, puisque lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on filme les acteurs en train de jouer, donc il faisait des plans séquences. En fait, derrière ça, il y a énormément de cinéma. Pour moi, Guitry, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de moderne involontaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en ne s'intéressant pas du tout à ce à quoi doit ressembler un film, à ce à quoi doit ressembler une scène, à combien de scènes doivent structurer un film, quelle longueur elles doivent faire pour que tout soit un peu harmonieux et machin, etc. Lui, en s'intéressant pas du tout à ça, il ne fait que de l'invention de forme tout le temps, en fait. Parce que quand il se met au cinéma, il va quand même rester à l'intérieur d'une pièce, mais il va avoir plein de petites excentricités, sachant qu'une excentricité, ça peut être de faire un plan séquence de 30 minutes.
Pour des gens qui n'auraient jamais vu Sacha Guitry, comment est-ce qu'on pourrait décrire un film de Sacha Guitry? Comme tu l'as dit, des longs plans séquences,
mon père avait raison, ça commence par une scène très longue, qui est juste un dialogue avec son père, mais qui dure peut-être 20 minutes. Tu vois, et c'est vraiment juste deux personnages qui parlent entre eux, avec un stop total du récit, en fait. Et en fait, c'est moderne de stopper un récit, parce que quand on va au cinéma, on s'attend quand même à ce qu'au bout de 20 minutes on ait rencontré quand même 3-4 personnages, qu'on ait des trucs qui commencent à se mettre en place. Et lui va tout à coup pas faire ça, faire une grande ellipse de 30 ans en racontant pas du tout ce qui s'est passé entre temps.
C'est pour ça que j'ai lancé cette thématique en disant que c'est un théâtre filmé, mais on va voir que c'est pas forcément le cas, parce qu'effectivement on a l'impression quand on regarde ce film là que c'est on est au théâtre et qu'on suit les personnages et qu'on a ces longs plans, et en plus ces films sont souvent fracturés ou en actes 1, acte 2, acte 3, et ils ne s'en cachent pas, et c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est que Guitry, tu l'as commencé à le dire, il va utiliser le cinéma, l'outil cinéma, non pas pour cacher le fait qu'il fait du théâtre filmé, mais pour dire je filme ce que je veux filmer, c'est-à-dire
mais
les acteurs
qui font le théâtre, il y a un rapport
comme je le veux, quoi.
Il y a un rapport très littéral à la chose filmée et à la forme voulue. Il décide, quand il fait le roman d'un tricheur, de faire un film qui est intégralement en voix off, dont on va dérouler les...
C'est fou, ça.
Et c'était complètement inédit à l'époque de faire ça.
Et on est 4 ans avant Citizen Kane.
Et on est 4 ans avant Citizen Kane. Et quand il fait Faisons un rêve, et qu'il fait tourner Jacqueline de Lubac et Rému dans tout l'appartement pendant qu'ils se disputent, et que ça dure, je crois, 10 ou 15 minutes, et qu'on voit défiler tout le décor, qui par définition n'est pas un décor de théâtre puisqu'il est à 360 degrés, on pourrait dire qu'on est 15 ans avant l'accord de Hitchcock aussi. Mais par exemple aussi, il peut filmer un type qui lit un livre, et une bonne partie du film, on va avoir la voix off du livre qui est lu, et on a une main qui tourne les pages.
Ouais.
Il a déjà fait ça.
De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain.
J'ai pas dit le titre exprès.
C'est un documentaire de 1944.
C'est un documentaire sur l'histoire de France qui se termine à Philippe Pétain.
C'est littéralement un unboxing. C'est peut-être le premier unboxing de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que littéralement, il a un livre, il l'ouvre et il va passer les pages, comme on peut le voir sur une vidéo YouTube aujourd'hui.
Du point de vue de la forme, c'est quelqu'un qui est d'une liberté absolue, et qui, dans cette liberté, va faire passer beaucoup de modernité sur ce que doit être un film, et sur qui parle, quelle est la nature de la fiction.
Comme il vient d'un autre univers qui est le théâtre, du coup il arrive et il dit, il pose des questions que les autres ne se posent pas forcément.
Il trouve un équivalent contemporain assez fort. Alors c'est malheureux, parce que j'ai parlé quand même des penchants misogynes de Guitry, et l'équivalent que je lui trouve a quand même été accusé et a reconnu ses torts dans une affaire liée au mouvement MeToo, puisqu'il s'agit de Louis C.K. Indépendamment du rapport aux femmes de ces deux personnes, personnes-là. Je trouve que ce que Louis C.K. fait avec la série Louis, c'est-à-dire cette manière de se foutre complètement de ce à quoi ça doit ressembler une série, et de comment on doit la structurer, et est-ce que les personnages doivent rester cohérents, est-ce qu'il doit y avoir des expérimentations de forme ou non, c'est-à-dire que des fois on s'en fiche qu'il y en ait, donc non, il n'y en a pas, et tout à coup il y en a une. Je trouve qu'il fait la même chose avec les séries que ce que Sacha Guitry a fait avec le cinéma. C'est un peu le... C'est un peu l'héritier.
Quelque chose qui est bon aussi à rappeler à nos spectateurs. Sacha Guitry, c'est un cinéma qui est très drôle. Parce que je vous avoue que quand Théo m'a dit on va faire un thème sur Sacha Guitry, en général, il y a toujours cette appréhension de se dire je ne connais pas un auteur, j'ai peur de ne pas aimer, j'ai peur. Il y a cette petite peur de partir sur quelque chose qu'on ne va pas forcément apprécier. Et je me suis vu éclater de rire sur certains moments du Nouveau Testament ou Faisons un rêve. Du coup, j'allais te demander, est-ce que tu as des recommandations, peut-être pour clore doucement ce troisième thème, tu as des recommandations de Sacha Guitry? Moi, j'ai envie d'inviter les gens à regarder Faisons un rêve parce que je me suis vraiment délecté de ce film-là.
Moi, je trouve que il y en a un que je pensais ne pas trop aimer et que j'ai revu pour l'émission et qu'en fait, j'ai trouvé fabuleux, qui est le roman d'un tricheur. C'est un pur plaisir de récit. Oui, il y a une citation que j'adore de Guitry et qui, je résumerai un peu le roman d'un tricheur. La moitié des bêtises que j'ai fait dans ma vie, c'était uniquement pour le plaisir de les raconter. Et le film, le roman d'un tricheur, c'est vraiment un film sur le plaisir de raconter, et un plaisir de raconter qui est tel que le malheur n'existe pas. Il y a cette chose très vitaliste chez Guitry. Le malheur n'existe pas en tant que tel parce que le malheur est un bonheur à raconter, en fait. Donc le roman d'un tricheur, c'est le film un peu emblématique de ça. C'est aussi un film où du coup on a un peu moins de scènes de pure jubilation de texte parce qu'il y a assez rarement deux acteurs en même temps qui parlent dans la même pièce. Donc moi je dirais le roman d'un tricheur.
Bah merci beaucoup Théo pour cette recommandation. Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème de cette émission consacrée à 1936. Nous allons aller glisser doucement vers notre tour du monde final qui va nous permettre d'évoquer tous ces films dont nous n'avons pas eu le temps de parler jusqu'à présent. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On est parti pour le tour du monde. Nous voilà dans le tour du monde final de notre émission, donc vous savez comment ça se passe effectivement. Ça nous permet à mon invité et moi de parler d'autres films de 1936 de cette année qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer et de caler notre petite recommandation personnelle. On a parlé de beaucoup de choses en 1936, on a parlé de l'extravagant Monsieur Dite, on a parlé des temps modernes, on a parlé de Guitry, on a parlé du cinéma ouvrier entre guillemets français avec La Belle Équipe de Julien Duvivier et d'autres films entre autres. Et toi Théo, tu voulais profiter de cette année 1936 pour nous parler d'un autre film,
et d'un autre pays.
D'un autre pays, d'une autre partie du monde. Quel est ce film? Quel est ce pays, Théo?
Ce pays, c'est le Japon. Ce réalisateur, c'est Yasujirō Ozu. Et ce film, c'est Le Fils Unique. Alors, je pense que pour présenter Le Fils Unique, et vu que c'est un tout petit peu quand même moins identifié que ce dont on a parlé jusqu'ici, je dois d'abord présenter qui est Ozu. Yasujirō Ozu, c'est un cinéaste japonais qui est né au tout début du XXe siècle et qui est mort au tout début des années 60, et qui est connu surtout pour sa fin de carrière, où il a fait tous les films les plus connus de sa carrière sur la classe moyenne japonaise, et raconté au présent. Et il a un style qui est très reconnaissable, un style un peu maison de poupée, un peu aquarium, c'est-à-dire que Ozu, il fait c'est extrêmement beau, c'est extrêmement reposant de voir des films d'Ozu, parce qu'il y a une sorte de clarté, de limpidité permanente, des cadres moyens qui souvent se confondent avec en fait l'intérieur d'une maison, puisque ils sont souvent au sol, dans lequel on va avoir souvent un personnage au centre qui parle face caméra. Les champs contre champs d'Ozu, c'est vraiment très très reconnaissable. Il n'y a pas du tout de trois quarts face, de trois quarts dos. Ce sont vraiment des raccords à 180 degrés avec des personnages qui se parlent et qui se disent des choses claires. Prime abord, n'y mettent pas forcément énormément d'affect. Et puis petit à petit, se nouent quand même des choses peu à peu beaucoup plus tragiques. C'est Simon Couleur qu'on connaît le plus, notamment Le Goût du Saké, Bonjour, Voyage à Tokyo. Et il raconte un peu toujours les mêmes thématiques qui sont l'interface entre les générations. C'est-à-dire que souvent, les films d'Ozu, presque tout le temps, sont des films sur des parents et des enfants, des parents âgés et des enfants adultes, ou qui entrent dans l'âge adulte et qui vont devoir un petit peu se défaire de l'emprise parentale, ou alors qu'ils vont justement plutôt refuser de s'en défaire, et c'est les parents qui se rendent compte que leurs enfants sont en train de se sacrifier pour eux et qui vont essayer de les pousser à le faire. Et c'est toujours un peu ça que ça raconte. Et en 36, il se trouve qu'il est à peine en train d'entrer dans cette phase-là de sa carrière, où il sort à peine du muet, parce que Ozu s'est mis à tout très tard, il s'est mis à la couleur très tard, il s'est mis aussi au parlant très tard, parce que le premier film japonais date de 31, mais celui d'Ozu date de 36 et avant il continuait de faire beaucoup de films muets. Et donc ça s'appelle Le Fils Unique. Alors Le Fils Unique, ça raconte comment une femme, une mère pauvre va décider, influencée par l'instituteur de son fils, de sacrifier ses économies pour que son fils aille au lycée. Son fils va partir au lycée à Tokyo et puis ensuite il va y avoir une ellipse et elle va le retrouver et là c'est là que la majeure partie du film va se situer. Elle va le retrouver à Tokyo adulte alors qu'elle n'a plus rien, elle est devenue vraiment très pauvre et elle se rend compte que lui non plus en fait, et que lui s'est marié, qu'il est très heureux de recevoir sa mère et qu'il essaie un peu de sortir le grand jeu et qu'il essaye un peu de lui montrer, de l'amener au cinéma, de l'amener au théâtre, de lui montrer des loisirs, et puis en fait il se ruine. Et en fait elle a une très grande désillusion qui est que le transfert de classe, qui est un peu le grand sujet de cette émission, j'ai l'impression, parce qu'on en a parlé autant chez Deeds que chez Duvivier et que chez Chaplin, que le transfert de classe n'a pas autant eu lieu. Et...
Donc Le Fils Unique de Yasujirō Ozu.
Et je précise que les notes, le journal intime de Yasujirō Ozu sort édité par Carlotta en novembre.
Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le réalisateur. Et donc Le Fils Unique de Ozu, film recommandé par Théo et film de 1936. Pour continuer ce tour du monde, ma petite recommandation personnelle à moi, ça va être un film qui n'est pas forcément très original puisque c'est l'un des grands films de cette année 1936, d'un grand réalisateur également. C'est Fury de Fritz Lang, qui sort donc également en cette année 36, avec Spencer Tracy, Sylvia Sidney, Walter Brennan. Et c'est un film que j'ai du coup revu pour préparer cette émission-là et que j'aime toujours autant, que je les revois assez régulièrement. Donc Fritz Lang, on va le rappeler, hein, c'est le réalisateur extrêmement connu de M le Maudit, de Metropolis, etc., etc. Et c'est Fury, son premier film américain, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant, parce que je trouve que c'est un film extrêmement intéressant. Fritz Lang donc, quitte l'Allemagne en 1933, il fait un film français en 1934 qui s'appelle Lilium, je crois, et il s'expatrie pour fuir le nazisme aux États-Unis, et il fait donc son premier film américain, Fury. Et pour son premier film américain, il choisit un sujet qui n'est pas anodin, puisqu'il va choisir effectivement l'histoire de Joe Wilson, qui va se retrouver, un citoyen tout à fait honnête, qui va se retrouver injustement accusé de l'enlèvement d'une jeune fille et qui va se retrouver victime de l'attaque d'habitants d'une ville qui veulent le lyncher, qui vont le laisser pour mort. Et lui va essayer de se venger de cette horde d'habitants, apparemment bien tout rapport, mais qui... sous la promesse de pouvoir lyncher quelqu'un, se révèle être des animaux ignobles. Et c'est intéressant que Fritz Lang, du coup, choisisse de parler de ça comme premier film américain, puisque, du coup, il décide tout simplement de parler de la société et, encore une fois, de cette folie sociale, de cette monstre que peut devenir la masse, cette monstre que peut devenir la foule, foule gargarisée par des idées, par une espèce de frénésie, cette envie du sang. Bref, c'est un Allemand, un réalisateur allemand qui a fui le nazisme, donc forcément, il parle un petit peu en creux, et surtout en creux de ces idées qu'il a vues gangréner la société allemande, le nazisme et le fascisme, et il le met du coup au cœur de ce, encore une fois, d'un film qui met la conscience sociale et la conscience humaine dans un tribunal, et il la juge, comme on l'a vu pour dans cette émission pour Deeds. C'est encore une fois un film qui met cette conscience et cette morale humaine au centre, et qui la juge et qui dit aux gens, ben simplement, attention à ce que vous faites, et attention, vous êtes responsable de vos actions. Et donc c'est drôle d'avoir cette même thématique qu'on a vue chez l'extravagant Monsieur 10 de Capra, traitée par un cinéaste européen qui, lui, a vu littéralement son pays défoncé par ces idées-là. Et je trouve que c'est un film extrêmement pertinent en 2020. Bref, il dresse un portrait de l'Amérique qui est surtout un portrait d'une société humaine malade. C'est extrêmement pertinent à voir en 2020, que Fury est un bon film à voir en creux pour peut-être trouver des réponses à nos questionnements contemporains. Donc je trouve ça plutôt pertinent. Voilà, Fury de Fritz Lang, c'est ma recommandation pour cette année 1936. Voilà qui conclut notre tour du monde et voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1936. On a donc parlé d'énormément de choses dans cette émission, de Frank Capra et de son utopisme moins optimiste qu'il n'y paraît, de Charlie Chaplin et de ses temps modernes, et du cinéma ouvrier en France, bien sûr, entre guillemets, et de l'éloquence et des films du grand Sacha Guitry. Enfin, on a évoqué Yasujirō Ozu et Le Fils Unique, et Fury de Fritz Lang à l'instant. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais encore une fois remercier mon invité Théo Ripton. Merci Théo, je remercie également les partenaires de l'émission. le magazine Cinéma Teaser et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans leur studio de la Villette à Paris. Remerciements particuliers à Gaspard, à la réalisation. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission si vous l'avez bien sûr aimé. Votre soutien et vos retours me font toujours énormément plaisir. Prenez soin de vous, matez des films et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Année Lumière. Salut, salut !